Il est 22h30 à Bamako et en temps universel, 23h30 à Paris et Niamey.
Afrique Soir.
C'est avec vous, Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin.
Bonsoir, Alban Le Prince. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'actualité africaine, nouvelle attaque djihadiste meurtrière dans l'ouest du Niger. C'est le détachement de Peltelkole qui a été visé mardi après-midi par près de la frontière avec le Burkina Faso, selon un communiqué de l'armée nigérienne qui fait état d'une dizaine de soldats tués. Le discours à la nation du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Discours, premier discours devant les deux chambres réunies en congrès depuis sa réélection en décembre 2023 pour un deuxième mandat. Discours aux allures de bilan de l'année 2024. La Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu dans l'enquête sur l'armée française au Rwanda. La Cour rejette les accusations de complicité de génocide visant les forces françaises et leur éventuelle inaction lors des massacres de Bicécéro en 1994. Nous reviendrons également sur les inondations d'avril dernier à Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. La montée des eaux du lac Tanganyika a englouti des milliers de maisons. Depuis, le lac n'a pas retrouvé son niveau initial. Expert en hydrobiologie nous expliquera pourquoi. Des informations contradictoires sur une attaque djihadiste au Niger près de la frontière avec le Burkina Faso. Un communiqué de l'armée nigérienne publié ce mercredi soir et cité par l'agence France Presse fait état de 10 soldats tués dans une attaque terroriste à Peltelkole dans l'ouest du pays. Quelques heures plus tôt, la télévision nigérienne Télé Sahel relayait en démenti de l'état-major affirmant qu'aucune attaque n'avait eu lieu dans cette préfecture de Terra. Mais d'autres sources affirment le contraire et on fait le point avec Eva Massi.
Il n'y a pas eu d'affrontement entre djihadistes et soldats dans la zone frontalière de Terra, selon l'état-major du Niger, dont le démenti a été lu ce mercredi soir par la télévision nationale Télé Sahel.
Ces informations saugrenues font état de plusieurs morts dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité dans la zone de Terra, ce qui, bien évidemment, totalement faux.
Quelques heures après cette information, l'armée nigérienne divulgue son bulletin des opérations cité par l'AFP. Les autorités militaires font état de 10 soldats tués et 7 autres blessés mardi dans une attaque terroriste à Peltelkole dans l'ouest du Niger, toujours dans cette zone près de la frontière avec le Burkina Faso. Pourtant, des sources sécuritaires et médicales annonçaient à RFI dès ce mardi midi qu'à quelques kilomètres de là, à Chatouman, une centaine de soldats nigériens sont morts dans des combats contre des djihadistes. Les affrontements ont eu lieu en plein milieu du marché bondé de cette localité de la préfecture de Terra. Selon les mêmes sources, dans l'attaque, une cinquantaine de civils ont également été tués. Ces informations sont donc démenties par les autorités nigériennes. Celles-ci ont organisé, ce mercredi après-midi, des obsèques pour les 10 soldats tués à Peltelkole.
Eva Massi. Et puis une opération de l'armée malienne et de ses supplétifs du groupe Wagner à la frontière de la Mauritanie, très précisément à l'Agdaf, près de Fassala, dans une zone où le tracé de la frontière n'est pas évident. Une quinzaine d'hommes, majoritairement des Mauritaniens, ont été arrêtés. Pour rappel, des incursions du groupe Wagner en Mauritanie ont déjà eu lieu par le passé, mais cette fois, selon les informations de RFI, les arrestations auraient eu lieu côté malien. Le récit de David Baché.
De nombreuses sources locales s'indignent d'une nouvelle incursion de Wagner et de l'armée malienne en Mauritanie et rapportent des mouvements de panique dans les villages de la zone. Mais plusieurs sources militaires mauritaniennes assurent que l'opération s'est bien déroulée côté malien et qu'il n'y a donc pas eu d'incursion. Toutes ces sources confirment qu'au moins une quinzaine d'hommes ont été emmenés par les Russes du groupe Wagner, une majorité de Mauritaniens et des Maliens. Les témoignages recueillis par RFI font également état de tirs. Deux jeunes hommes auraient été blessés avant d'être embarqués, d'au moins 4 voitures emportées et de boutiques saccagées par les hommes de Wagner. Ni l'armée malienne, ni les sources officielles mauritaniennes sollicitées par RFI n'ont souhaité commenter à ce stade. Le village de l'Ardaf, près de Fassala, se trouve sur une zone frontalière floue que Maliens et Mauritaniens traversent quotidiennement sans même en avoir conscience, expliquent certaines sources, qui ajoutent que des Mauritaniens sont même installés sur le sol malien. Ces dernières années, plusieurs cas d'incursions avérées de Wagner et de soldats maliens en Mauritanie ont suscité des tensions entre les deux pays, qui ont cependant conservé des relations stables.
David Baché. J'ajoute que tous les Mauritaniens qui avaient été arrêtés par le groupe Wagner ont été libérés ce mercredi soir. Information confirmée à RFI par une source officielle mauritanienne. Aucune précision pour les Maliens qui avaient été arrêtés. Au Ghana, 4 jours après la présidentielle, l'équipe chargée de mener la transition a été officiellement installée ce mercredi. Ce matin, le président sortant, Nana Akufo-Addo, qui achève son 2e mandat, a reçu John Dramani Mahama, président élu. Les deux hommes affichent une volonté de travailler ensemble dans l'intérêt du pays. À Accra, le récit de Vinita Diagne.
Le tête-à-tête a duré une trentaine de minutes. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, a félicité John Mahama pour sa victoire remarquable, selon ses mots. Il l'avait déjà appelé lundi pour lui proposer de mettre en place une équipe de transition. Le président Nana Akufo-Addo veut que le transfert d'autorité se fasse de manière fluide. Le Ghana doit continuer de fonctionner comme un État démocratique dans le respect de la volonté du peuple, a-t-il déclaré. Puis le président élu, John Mahama, a pris la parole devant une poignée de journalistes pour dire sa satisfaction. Il dit avoir eu un briefing sur la situation sécuritaire et sur l'économie. « Nous allons travailler ensemble dans l'intérêt du Ghana », a-t-il assuré. Tous les deux estiment que cette première rencontre a été cordiale. L'équipe de transition se compose d'une trentaine de personnes. Elle est coprésidée par la chef de cabinet de Nana Akufo-Addo et le chef de cabinet de John Mahama. Côté gouvernement, les portefeuilles clés y sont représentés. Défense, finance, intérieur, justice, affaires étrangères. Du côté du président élu, il y a là ses proches collaborateurs et des cadres de son parti. Cette transition sera courte puisque John Mahama sera investi le 7 janvier prochain. Binta Diagne, Accra. RFI.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est au Nigeria pour une visite de 2 jours. Il s'est entretenu avec son homologue Bola Ahmed Tinubu ce mercredi à Abuja, la capitale fédérale. Entretien portant sur le partenariat énergétique entre les deux pays.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
L'adresse à la nation de Félix Tshisekedi ce mercredi en République démocratique du Congo. Premier discours du genre depuis sa réélection pour un second mandat fin 2023. Et pour l'occasion, les deux chambres étaient réunies en congrès. Discours aux accents de bilan de l'année 2024. À Kinshasa, on fait le point avec Pauline Azidi.
Une ambiance survoltée avant le discours du président qui a beaucoup parlé d'économie. Une croissance à 6%, une inflation à 11%. Il faut continuer à diversifier les ressources selon le chef de l'État qui a vanté les réalisations de son pays.
Des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, sans oublier la modernisation de nos aéroports. La République démocratique du Congo est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit un avenir radieux.
Félix Tshisekedi a évoqué ensuite la situation sécuritaire dans l'Est, rendant hommage aux militaires et leurs alliés, les milices Wazalendo, engagées contre les forces du M23 et du Rwanda, avant d'aborder le débat qui anime la classe politique congolaise, une éventuelle réforme constitutionnelle.
Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple.
Et le président de conclure, tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Ouvira, l'une des principales villes de la province du Sud Kivu dans l'est de la RDC, est-elle en passe de disparaître? En avril dernier, la montée des eaux du lac Tanganyika a surpris de nombreux habitants. Plus de 2800 maisons ont été inondées, provoquant ainsi le déplacement de près de 35 000 personnes. 8 mois plus tard, la plupart de ces maisons sont toujours sous les eaux. Le lac n'est jamais redescendu à son niveau du printemps 2024. Reportage à Ouvira, Coralie Pierret.
Voilà maintenant 8 mois que Kaya Mouvumbi et sa famille n'ont pas dormi chez eux.
Donc là, c'était quoi avant?
On va voir si vous voulez. C'était des chambres, les garçons de ce côté et les filles de l'autre.
La moitié de sa maison est inondée. Le sol du reste de son habitation a été recouvert de sable pour éviter la boue.
Mais pour dormir, nous n'avons pas le choix. Nous allons à l'hôpital. Nous venons ici juste pendant la journée, quand on a des choses à faire. Mais ici, il y a de l'eau partout. Nous avons peur qu'elle s'écroule.
Après la montée soudaine des eaux du lac Tanganyika en avril dernier, les sinistrés n'ont toujours pas été relogés. Nombreux sont ceux qui vivent encore dans des familles d'accueil, reconnaît Kizamwato, le maire de la ville d'Ouvira.
avec la direction nationale. On est en train d'étudier comment relocaliser ces sinistrés du lac Tanganyika. Nous voulons changer que certains résidents, qu'une population puisse aller vers le nord suite à cette montée des eaux.
Des quartiers entiers, y compris en centre-ville, n'ont jamais pu être reconstruits. Les eaux du lac Tanganyika ne sont jamais redescendues à leur niveau du printemps. Coralie Pierret, de retour d'Ouvira, RFI.
Alors pourquoi le niveau des eaux du lac n'est jamais revenu à la normale, même pendant la saison sèche? Réponse avec le chercheur Donatien Mozomani du Centre de recherche en hydrobiologie d'Ouvira. Il répond aux questions de Coralie Pierret.
On observe une montée progressive des eaux du lac Tanganyika depuis 2007. C'est une tendance lente, mais qui est continue. Et le niveau du lac n'est jamais rentré à 773 mètres, qui est son niveau initial. Maintenant, nous sommes au-dessus de 773 mètres.
Ça, ce serait dû aux fortes pluies qu'il y a eu dans le bassin versant du lac Tanganyika, c'est ça?
Il y a aussi le phénomène El Niño à l'océan Indien. L'évaporation qui se fait au niveau de l'océan Indien, s'il y en a beaucoup, ça affecte toute cette région. Et nous, on a beaucoup de pluie. Cette vapeur d'eau qui arrive raconte la chaîne de Mitumba ici et nous enregistrons des précipitations à notre niveau. Et c'est dans le bassin du lac Tanganyika.
Plus importante qu'il y a quelques années.
Exactement.
Quelles pourraient être les conséquences pour la ville d'Ouvira si cette montée des eaux venait en fait à continuer?
Il y a une phrase qui dit que si rien n'est fait, la ville d'Ouvira est tenue à disparaître. Les autorités le savent, la ville d'Ouvira est coincée entre le lac et la chaîne des montagnes. Elle est bâtie sur une plaine côtière du lac Tanganyika. C'est une zone de sédimentation où il y a eu des dépôts dans le passé et c'est là où se trouve la ville. Donc la ville est menacée à la fois par des rivières et par la montée du niveau du lac. Si le niveau du lac monte, et une bonne partie de la ville sera partie.
Est-ce qu'on peut prévoir ces crues ou prévoir ces catastrophes?
Bon, avec nos moyens, il faut une assistance. Il faut une assistance. Il y a des réunions qui se sont faites, il y a des documents qui étaient produits, les plans de contingence, tout ça, comment réduire les conséquences. Et il faut former la population. Il faut bien cartographier les zones à risque dans la ville et communiquer aux gens les quartiers où il est interdit d'habiter et déplacer ces gens-là. Donc je pense qu'il faut lotir les endroits sûrs où on peut déplacer les gens et penser à le faire bien avant que les catastrophes n'arrivent.
Les explications du chercheur Donatien Mozomani pour ce dossier consacré aux inondations à Ouvira en République démocratique du Congo. Dossier signé Coralie Pierret.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Après plusieurs procédures successives, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi le non-lieu général rendu en octobre 2023 dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française à Bisesero, au Rwanda, en plein génocide des Tutsis. Dans cette affaire, trois associations et des rescapés du massacre de Bisesero accusent l'opération turquoise et la France de complicité de génocide pour avoir seulement, selon eux, sciemment abandonné des civils Tutsis aux mains des tueurs Hutus en juin 1994. Compte rendu d'audience, Lisa Fabian.
C'est un échec sur toute la ligne pour les parties civiles qui avaient fait appel de deux ordonnances dans cette affaire. Le non-lieu général clôt le dossier et empêche le renvoi devant la justice de plusieurs hauts gradés français, dont le général Lafourcade, son avocat, maître Emmanuel Bidanda.
Cette décision met fin à près de 20 ans d'accusations particulièrement infamantes contre nos clients. On parle d'absence de charge. Il n'y a rien. Voilà. Le dossier, tout le monde le sait depuis des années, qu'il n'y a absolument rien dans ce dossier. On a essayé de manière tout à fait artificielle à le maintenir en vie contre toute évidence judiciaire. Donc c'est terminé.
Les parties civiles faisaient aussi appel contre le refus des juges de procéder à certains actes d'enquête. François Graner de l'association Survie.
Nous, on a toujours dit qu'il fallait interroger les responsables militaires à Paris, essentiellement le chef d'état-major de l'armée de l'époque, l'amiral Langsade, le conseiller militaire de Mitterrand. Il fallait les interroger pour pouvoir les renvoyer éventuellement aux assises. Et c'est cette démarche-là, ces actes-là, qui ont été demandés par les parties civiles, qui ont été systématiquement refusés par la justice. Et ça, pour nous, c'est un déni de justice.
L'association Survie indique qu'elle va poursuivre son combat judiciaire pour faire reconnaître les fautes de la France au Rwanda.
Lisa Fabian est direction La Haye, où le procureur de la Cour pénale internationale a présenté ce mercredi son réquisitoire contre Ali Kouchaib. L'ex-Janjaweed du Soudan est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, des crimes commis en 2003 et 2004 au Darfour. C'est le premier procès visant un responsable soudanais. Trois autres anciens responsables du régime de l'ex-président Omar el-Béchir, dont lui-même, sont aussi inculpés, mais en fuite. Ali Kouchaib s'était volontairement livré à la cour en 2020. Compte rendu d'audience à La Haye, Stéphanie Maupin.
L'accusation demande au juge de reconnaître l'accusé 31 fois coupable pour les crimes commis au Darfour. Alors que l'ex-paramilitaire soudanais affirme qu'il n'était qu'un simple pharmacien, l'accusation a décrit un chef Janjaweed reconnu par le gouvernement. La milice paramilitaire des Janjaweed, les cavaliers à cheval, répandait la terreur pour dissuader les civils de soutenir la rébellion. Et Abdelrahman était un chef remarqué par Khartoum, dont il recevait armes et munitions pour mener la contre-insurrection. C'est ce qu'a expliqué le procureur Karim Khan à l'ouverture de l'audience.
L'accusé dans cette affaire était un membre éminent des Janjaweed, un leader, et il a été activement impliqué dans la commission des infractions de son plein gré. Alors que le gouvernement soudanais et d'autres armaient les Janjaweed, apparemment pour faire face à la rébellion, la réalité, c'est que la cible dans ce cas, ce n'était pas des rebelles, mais des civils.
Costume gris clair, cravate rouge et noire, Ali Mohamed Ali Abdelrahman a patiemment écouté les réquisitions du procureur. Il devrait prendre la parole vendredi au terme de cette série d'audiences. Stéphanie Mopala et RFI.
Et puis au Soudan du Sud, plusieurs hauts responsables limogés lundi par le président Salva Kiir. Parmi eux, Santino Dingwall, chef de l'armée depuis 2021, Atem Marol Biar, patron de la police, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, James Alik Garang. Pour l'heure, on ignore les raisons de ces limogeages. Rappelons que d'autres figures du pouvoir ont été écartées début octobre. C'est notamment le cas du chef des renseignements, le général Akol Kurkouch, en poste depuis l'indépendance en 2011. Les précisions de Florence Mietto.
Certains médias évoquent une purge en cours dans l'appareil d'État au Soudan du Sud. Alors que les circonstances exactes des combats du 21 novembre n'ont pas été établies, des rumeurs circulent. Akol Kurkouch est-il au cœur d'un complot contre le chef de l'État ? Devait-il être arrêté ce jour-là ? Si ces questions sont pour l'instant sans réponse, le président sud-soudanais semble douter de la loyauté de certains hauts gradés. L'analyste Daniel Aketch-Tiong de l'International Crisis Group observe une restructuration continue du secteur de la sécurité depuis deux mois. Selon le chercheur, c'est dû à la crise financière qui touche le Soudan du Sud depuis l'arrêt des exportations de pétrole du fait de la guerre au Soudan, mais aussi du fait des luttes de pouvoir qui s'intensifient au sein même du cercle présidentiel. Daniel Aketch-Tiong estime que l'incident à la résidence d'Akol Kurkouch aurait pu dégénérer car, dit-il, dans tous les épisodes précédents d'affrontements armés à Djouba, il y a toujours eu une sorte d'accident déclencheur. L'armée sud-soudanaise a formé une commission d'enquête pour établir ce qui s'est réellement passé le 21 novembre. Ces travaux sont en cours.
Florence Mietto. J'ajoute que le nouveau patron de l'armée sud-soudanaise, le général Paul Nang Madjok, prendra ses fonctions ce jeudi à Djouba. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé lui ce mercredi que les dirigeants somaliens et éthiopiens avaient trouvé sous ses auspices un accord pour mettre fin à des tensions, notamment sur l'accès à la mer de l'Éthiopie, à la suite de plusieurs heures de négociations à Ankara. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed étaient effectivement à Ankara ce mercredi pour un nouveau round de négociations organisé par la Turquie après deux premières tentatives qui n'avaient pas débouché sur des progrès notables. En football, suite et fin ce mercredi de la sixième journée de la saison régulière de la Ligue des Champions. Neuf matchs au programme et encore beaucoup de buts marqués. 34 pour être précis, aux quatre coins de l'Europe. Le choc de la soirée opposait le Borussia Dortmund au FC Barcelone. Ce sont les Allemands qui se sont finalement inclinés malgré un très bon match du Guinéen Serhou Guirassy.
Ni Dortmund, ni le FC Barcelone ne devaient perdre pour rester tout en haut de ce classement de la saison régulière. Moins à l'aise en championnat, les coéquipiers de Serhou Guirassy flambent en Coupe d'Europe, mais le Barça s'est montré plus tueur dans la roue. Victoire spectaculaire, bien qu'un peu surprenante. 3-2 malgré deux réalisations de l'international guinéen. Un penalty parfaitement tiré pour le 1-1, puis un but offert par l'un de ses coéquipiers, Pascal Gross, en fin de match. Sixième but cette saison en Ligue des Champions pour l'ancien joueur du Stade Rennais. Avec 3 points de plus dans l'escarcelle, le Barça conforte sa place dans le top 8. Dortmund chute à la 9e place. Autre joueur très en forme, l'ailier algérien du Feyenoord de Rotterdam, Anis Hadj Moussa, qui s'est une nouvelle fois distingué avec ce but somptueux d'une frappe enroulée dans le petit filet pour la victoire des Néerlandais contre le Sparta Prague 4-2. Troisième but sur les 3 derniers matchs dans une compétition que l'ailier de 20 ans découvre cette saison. Lui vient de marquer son premier but pour son nouveau club. L'international marocain Ozam Sarawi a ouvert le score pour la victoire de Lille 3-2 face aux Autrichiens de Sturm Graz.
Précision signée Sofiane Amazian. Et puis parmi les autres résultats, Monaco a sombré sur la pelouse d'Arsenal 3-0. La Juventus Turin a battu Manchester City 2-0. C'est officiel, la FIFA a validé la candidature Maroc-Espagne-Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030. L'instance tenait aujourd'hui son congrès extraordinaire, rencontre réunissant l'ensemble de ces fédérations qui ont voté à l'unanimité pour le projet Yala Vamos. Les précisions de Mathias Rénal.
L'annonce a été faite par le président de l'instance en personne, Gianni Infantino, qui a animé une visioconférence. Il faut préciser qu'il n'y avait aucun suspense. La candidature tripartite ibéro-marocaine était la seule en lice depuis un an. 3 matchs se joueront par ailleurs au Paraguay, en Uruguay et en Argentine pour célébrer les 100 ans de la compétition. Intervenant dans une vidéo préenregistrée, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fawzi Lerja, a exprimé sa reconnaissance. Il a remercié la FIFA d'avoir eu confiance dans son pays. Une confiance qui, dit-il, témoigne des avancées réalisées tant au niveau des préparatifs qu'au niveau du développement global du pays. Le royaume qui se prépare depuis des mois. Ces grands stades sont tous en rénovation. Le Maroc a entrepris également la construction de la plus grande enceinte du monde avec 115 000 places près de Casablanca. Le futur stade Hassan II qui est en lice pour accueillir la finale. Galop d'essai avant le mondial pour le Maroc. Il organisera la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Mathias Rénal, Casablanca, RFI.
Et puis, sachez que le Mondial 2034 a été attribué à l'Arabie Saoudite. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 22h et bientôt 52 minutes en temps universel. Et on referme bientôt cette demi-heure d'infos africaines en compagnie d'une bande d'artistes afro-futuristiques punk, un collectif baptisé Fulu Miziki Collective, ce qui en lingala signifie le son des poubelles. Ce groupe venu tout droit du quartier de Ngwaka à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a passé l'année 2024 à sillonner les routes d'Europe pour défendre Mokano, son dernier disque, un disque que Pierre Vallée nous fait découvrir.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette loi de la science physique pourrait être la devise de Fulu Music Collective. S'ils ne sont ni les premiers ni les seuls en Afrique à fabriquer leurs instruments à partir d'objets mis au rebut, ils se distinguent car eux n'utilisent que ça. Pas de machines et très peu d'amplificateurs pour les accompagner. Et pour aller jusqu'au bout de leur démarche, les objets qu'ils trouvent servent aussi à fabriquer les masques et les costumes de scène, indispensables à créer l'ambiance afro-futuriste de leur spectacle. Les membres de Fulu Miziki Collective ont grandi à Kinshasa, dans le quartier de Ngwaka, un quartier pauvre qui accueille une immense décharge à ciel ouvert. De cette mauvaise fortune, ils ont fait une chance. Et si leurs instruments fabriqués de briques et de brocs ne sont pas des exemples de précision et de justesse, cela ne fait que souligner leur excellent travail sur le chant et les harmonies vocales.
Waneko kipona yo bawela bomengo bakwea na motambo yo ya sabolo
Leur style mélange à la fois de la rumba, du punk, du reggae, du hip-hop, du rock, de l'électro, du disco, de la house ou encore du soukous. Un cocktail explosif qui enchante autant les oreilles que les yeux et qui est parfaitement indéfinissable. Mais peu importe, l'énergie est là, communicative, support de leur message, dénoncer la pollution, prôner la libération panafricaine et la réconciliation de l'homme et de la nature.
Passy, c'est signé Foulou Iziki Collective, une bande d'artistes afro-futuristiques punk en concert le 13 décembre à Bourges dans le centre de la France. Bande qu'on a découvert grâce à Pierre Vallée. La réalisation d'Afrique Soir est signée ce soir Raphaël Lazizier, rédactrice en chef Sabine Mélé, assistée de Thomas Yayani.
Portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone.
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.
RFI, la sélection du mois.
CK and the Cavemen.
Don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Vodou Game et Clara Serra Lopez.
Allez, donne la santé. Allez, après déjeuner.
Adekunle Gold.
My baby, bring your chest, make I lay my head, cause it don't dip in. Be like ice water, we go cool me down when I don't this stream. Anywhere where you be, I go day with you, no go change my station.
Petit Fally.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
réunion du partenariat pour la couverture santé universelle de l'OMS à Lyon.
Vendredi,
question de femmes, les accidents de la vie courante.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.